Hold my hand. You're beautiful. Tell me your secrets. Dance with me. Let's go. Stop. Just breathe. Dance with me. Let's go.
Amis auditeurs, auditrices, bonjour. On sentait un petit peu le vent, on entend toujours les cigales. Je suis toujours à Cajar pour le festival Africajar 2023. Nous sommes au camping. Alors là, je vais vous montrer. Vous voyez ces tentes là-bas que vous voyez, les grandes tentes là. En fait, c'est des grands campings, des grandes tentes. C'est en, ce qu'on appelle un trois pièces, voilà. Et c'est là-bas où je loge avec ma petite équipe d'artistes. Et voilà, là j'ai rencontré quelqu'un qui était juste à côté, qui a mis sa tente. Je vais essayer de prendre ça comme ça de loin en image. Voilà, vous apercevez cette tente verte, mais juste à côté, derrière, il y a une tente blanche. Je tenterai de filmer un peu mieux tout à l'heure. Voilà, et donc là, on a rencontré un Sénégalais. Voilà. Parce qu'on est passé, on parlait Wolof, et puis il nous a interpellé, salam alaikum, on dit tiens, voilà. Donc du coup, aujourd'hui on se revoit, on discute, en bon Sénégalais, donc je lui amène le café. Et oui, on m'a bien enseigné comment une femme doit être avec ses compatriotes. Et donc du coup, il me ramène l'assiette, et en discutant, sachez que vous avez en face de vous le fils du célèbre Viera, bonjour.
Bonjour Anna, bonjour. Je suis un peu confus par cette présentation. Ben bonjour aux auditeurs. Je suis honoré d'avoir rencontré Anna. Voilà, je m'appelle Makandjou Ola Jacques Viera. Je suis né, j'ai grandi au Sénégal, à Dakar. Boy Dakar là, comme on dit. Et là, je viens assister pour la première fois au festival Africajar. Invité par une amie, donc on est arrivé jeudi, voilà, de la région parisienne.
Amis auditeurs, voilà, vous avez l'eau à la bouche, moi aussi. Je vous montre le camping. On y va ?
On y va.
Allez, on y va. On va aller se faire une petite place sur ce camping qui accueille aujourd'hui plein de monde et qui accueille depuis le début du festival énormément de personnes. Bon, là, je voulais prendre Ludovic qui s'occupe de ce camping, mais bon, ce sera pour un peu plus tard. On va s'installer, voilà. Vous voyez, hein, il est super ce camping. Alors, on va aller là. Ça vous permet de savoir un petit peu quel est le décor qui se passe à Africajar dans un camping. Là, il y a un petit peu de soleil. On va peut-être s'installer de l'autre côté. Voilà. On va être au frais.
Comme tu préfères.
Vu qu'il y a de la place. Oui. Vous voyez, là, il y a toute la programmation. Visite passion, servez-vous. Voilà, histoire de découvrir la région. Il y a même une forêt de singes, tiens, je ne savais pas. Voilà.
Ouais,
du coup, on va aller s'installer. On va se mettre dans un petit coin où on n'a pas trop de soleil. Tiens, là, je pense que ici, ça le fait. Voilà, on va s'asseoir.
Radio Théolis, la radio déconnectée.
À la découverte de Manka Diola, Jacques Viera, depuis Africajar, dans les enquêtes d'Anna sur Radio Théolis.
La radio déconnectée, à Lomé, au Togo.
Oui, Paulin Soumanou Viera est mon père, feu Paulin Soumanou Viera, et il fait partie des pionniers du cinéma africain, avec l'un des tout premiers films qui a été réalisé par un Africain du sud du Sahara, Afrique sur Seine, réalisé en 1955, avec trois autres camarades. Voilà. Mais sinon, bon, je suis moi-même. Là, je suis venu passer quelques jours à Cajar, découvrir ce beau festival. Et ma foi, je suis enchanté. Voilà. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Donc j'ai croisé Anna, qui avec vraiment une immense gentillesse est venue m'apporter un plateau de café,
ce matin.
De biscuits ce matin, voilà. Et donc en le lui rendant, effectivement, on a commencé à échanger en lui rendant le plateau vide, l'assiette vide. Et elle m'a proposé de m'interviewer. Alors je lui ai dit, avec le peu que je sais d'elle, c'est elle que j'aurais dû interviewer parce que moi j'interviewe aussi les personnes.
Ah tiens, tu ne me l'avais pas
voilà,
dit.
Voilà. Des petites interviews pour... voilà.
Ouais. Voilà. Alors, tu vas déjà nous parler de ton papa qui est connu, qui a eu l'occasion de travailler sur des sujets avec pas mal de personnes. Il n'y en a qu'un qui n'a pas pu, mais je te laisse dire tout ça.
Oui, mon papa a fait partie de la génération des indépendances, hein, des années 60, enfin des dites indépendances. Et donc il a pu côtoyer un certain nombre de personnes, toutes les personnes connues de cette période-là. Surtout qu'il a filmé le premier congrès des écrivains noirs, je crois que c'était en 56. Ensuite, il a filmé aussi le congrès des écrivains africains à Rome, je crois que c'était en 59. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il a réalisé donc ce premier film. Et à l'époque, d'ailleurs, on ne pouvait pas tourner en Afrique, hein, jusque dans les années début 60. Hein. Il y avait le décret Laval qui interdisait que des Africains puissent tourner des films dans leur propre pays. Donc il a fait à Paris avec les moyens du bord. Voilà. Et sinon, il a filmé beaucoup d'indépendances africaines, l'indépendance du Congo, avec Patrice Lumumba. On le voit avec Haïlé Selassie aussi, puisqu'il a travaillé pour les actualités sénégalaises. Il a été directeur des actualités sénégalaises pendant 15 ans. Donc toute la mémoire visuelle du Sénégal indépendant, c'est lui qui, et ses équipes qui l'ont filmé pendant 15 ans. Donc je me rappelle quand on allait au cinéma, il y avait 20 minutes d'actualité sénégalaise à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Et c'était un régal. Voilà. Que je peux dire, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Hein. Voilà, bon, en fait, oui, ce que je disais à Anna tout à l'heure, mon père, en fait, est né au Bénin, Dahomey, à Porto Novo, en 1925. Donc, il n'était pas, au départ, sénégalais de nationalité. Et il est parti en France en 1935, en pension, un peu contre l'avis de sa maman, parce que mon grand-père tenait, c'était l'aîné de la famille, d'une famille de 8. Et donc, mon grand-père tenait à ce que son aîné partent en pension en France. C'était un peu jeune pour 10 ans. Donc il a été malheureusement, donc en 1935, ensuite en 39 la guerre a éclaté, 39-40. Et il a été coupé de l'Afrique, coupé de ses parents pendant quelques années. On l'a cru mort d'ailleurs. Il a même perdu l'usage de sa langue maternelle. Enfin, toujours est-il que ensuite il a terminé ses études. Oui, la maladie aussi l'a empêché de faire les études qu'il voulait faire au départ. Hein. Le cinéma est venu en second choix. Au départ, il devait faire art et métier et il n'a pas pu intégrer l'école pour des raisons de santé. Donc la rentrée est passée et il s'est inscrit à l'IDEC. Et c'est là qu'il a fait des études de cinéma. Je crois qu'il avait figuré aussi dans un film, Le Diable au corps. Je crois que le pianiste noir qu'on voit dans de Claude Autant-Lara.
Oui, très connu ce film,
voilà,
Diable au corps.
Le pianiste qu'on voit là, de dos noir, c'est lui. Voilà. Mais bon, malheureusement dans le film, on ne voit pas son visage, mais c'est lui qui joue au piano, en fait. Voilà, qui joue ce rôle-là. Voilà, donc après ses études de cinéma, eh bien, il a rencontré beaucoup d'étudiants africains. Donc à Paris, effectivement, il a rencontré Aliou Diop, Birago Diop, Cheikh Anta Diop, tous ces Diop illustres et célèbres, qui ne sont pas de la même famille directement, mais dans un... lointaine ascendance sans doute, bien sûr, puisque nous sommes presque tous parents. Voilà. Mmh. Et puis, voilà, donc moi j'ai baigné là-dedans, je suis né dans les années 60, début des années 60, et j'ai baigné dans cet univers-là. Voilà.
Et là, c'est le papa. On parlait du papa, maintenant tu vas nous parler de toi. Ouais. Que fais-tu? Qui es-tu?
Voilà. Alors, tu me fais penser aussi à une chose intéressante, parce que il faut parler aussi un peu de la maman, parce que c'est elle qui nous met au monde. Mes parents se sont rencontrés en France, ma mère était de la Guadeloupe, mes parents se sont rencontrés en France, et donc ils ont décidé de se marier. Moi, je crois que j'ai été conçu, c'est une anecdote, hein. J'ai été conçu en France, je suis né au Sénégal.
Tu as été conçu en France et né au Sénégal.
Voilà.
On saura tout là.
Voilà, exactement. Bon, c'est les indiscrétions familiales. Voilà, et ils se sont mariés donc au Sénégal. Voilà, et donc je suis né et j'ai grandi au Sénégal et j'ai un frère et une sœur. J'ai une sœur, un frère. Voilà, on est trois. Et donc en fait, moi j'ai un parcours assez atypique parce que. Après mon bac, je suis parti en ex-URSS, faire des études d'ingénieur en aéronautique, donc en maintenance des moteurs et cellules d'avion. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis, donc je fais rien comme tout le monde, pour faire des études d'aérodynamique et de propulsion. Donc j'ai deux diplômes d'ingénieur. Ensuite, je suis revenu en France. Et j'ai commencé à travailler, donc il y a une petite parenthèse de service militaire, et j'ai commencé à travailler dans les années 90, comme ingénieur d'études, dans une entreprise qui faisait des équipements pour les Airbus, et j'ai travaillé aussi sur un programme d'hélicoptères de combat, qui s'appelle le Tigre, bon, dans le domaine... hydraulique, hein, sur la centrale hydraulique.
Le voilà. Tigre Vieira.
Voilà, tigre, non. Bon, ce qui est triste à dire, c'est des engins qui ne sont pas utilisés pour faire du bien, mais c'était comme ça à l'époque. Voilà, depuis j'ai quitté ce milieu-là, et ensuite, donc 7 ans sont passés, j'ai voulu faire un MBA, finalement j'ai pas fait de MBA, j'ai pris une année sabbatique, j'ai été à mon compte un an et demi, 2 ans, puis après, j'ai retrouvé du travail en France en 2001, je crois. Et de 2001 à 2009, j'ai été manager de contrat dans une société en France. Puis, c'est à ce moment-là que des grosses interrogations sont arrivées.
Tu as été manager dans quel domaine ?
Manager de contrat. Alors, c'était un domaine là qui était moins relié aux avions, mais plus au contrôle aérien. Donc là encore, j'avais des contrats aussi avec l'armée française. Donc je gérais des équipes de conception de matériel pour le contrôle aérien, voilà, un truc comme ça. Conception et puis la commercialisation et puis l'installation, voilà. Donc un peu de A à Z. J'avais des contrats comme ça que je gérais. Voilà, et c'est là que les interrogations sont apparues et je voulais vraiment faire autre chose. Je voulais un peu, je suis un peu rêveur, donc je voulais vivre mes rêves et ne pas seulement rêver ma vie. Voilà, et c'est là que c'était un peu en vogue, le développement durable et ces choses comme ça. J'avais commencé en 2008 à faire du yoga avec une collègue de mon entreprise, entre 1000 et 2. Et au cours d'un stage, on a évoqué le nom de maître yogi Babacar Khan. Babacar Khan est un Sénégalais qui aujourd'hui a 88 ans. Et on peut dire que c'est vraiment le père du yoga africain. Voilà, des temps modernes, avec sa femme Geneviève Khan, qui est égyptologue. Donc, Babacar Khan a bien connu Cheikh Anta Diop, et Cheikh Anta Diop lui a dit tu as peut-être trouvé une des clés qui nous permet de mieux connaître la spiritualité égyptienne. Parce que Babacar Khan a remis au goût du jour le yoga des pharaons. Il y a différentes appellations, hein. Ça s'appelle le Sematawi Yoga, aux États-Unis ils l'appellent le Kemetic Yoga, Moi, j'ai donc été formé à cette pratique-là en 2009, quand j'ai retrouvé Maître Yogi Babacar Khan. Oui. Donc, j'avais pu négocier un départ avec mon entreprise. Et je me suis inscrit pour être formé. Au départ, je ne voulais même pas être formé. Au départ, je voulais simplement pratiquer. Et puis, voilà, j'ai eu un coup de cœur. J'étais libre de mes engagements professionnels. Et j'ai pu donc me former. Assez rapidement, le maître Yogi m'a fait confiance. Il m'a dit en 2010, bah, vas-y, tu peux commencer à enseigner en attendant de terminer ta formation. Donc j'ai commencé. Et donc j'ai pas arrêté. Et je pense que tant que je serai en vie, que j'aurai la force, je continuerai. C'est une pratique extraordinaire. Alors, pour les gens qui parlent Wolof, ma pratique, c'est le Sumotawi. Sumotawi, moi, Bumai Tawe. Taweku, c'est s'étirer. Sumotawi. Donc je le vocalise comme ça. C'est en langue égyptienne pharaonique.
Sumotawi.
Sumotawi.
Tu refais le geste parce que...
Domei Taweku, quoi. Tu vois, Domei Taweku. Sumotawi. Donc, c'est un concept philosophique d'Égypte ancienne qui est une expression de ce que les anciens égyptiens appelaient la ma'at, la vérité, la sagesse, la justice. On en a bien besoin aujourd'hui. Et donc, pour ne pas être trop long, le rôle de Pharaon, c'était de maintenir l'harmonie cosmique sur Terre, dans son royaume, dans les doubles pays, double royaume, qui était le nord et l'Égypte du sud, Kemet, que je vocalise Kamuta.
Donc ça correspond aujourd'hui à quelle région, le nord et le sud de l'Égypte, tu sais?
Alors, je ne me rappelle plus.
La Nubie dirais,
alors, la Nubie faisait partie du sud.
Oui.
D'accord. Mmh. Il y avait quand même une démarcation entre ce qu'on appelle aujourd'hui le sud de l'Égypte et la Nubie. Mais ça a englobé toute cette région-là. Le nord, c'était plutôt le delta, la région du delta. Mais généralement, les égyptologues comptent au niveau de la cataracte, des cataractes. Parce qu'il y a la cataracte de Hun, elle commence au niveau de la source. Et remonte comme ça jusqu'au nord, puisque le Nil coule du sud vers le nord. Mais c'est des divisions qui sont un peu arbitraires, hein, quelque part. Voilà. Mais les anciens Égyptiens, eux, avaient une délimitation qui était plus claire. D'accord ? Narmer Menes, on ne sait pas très clair au niveau du nom, mais il est considéré comme le roi dynastique, de la dynastie Hun, d'accord ? Qui a uni l'Égypte, le nord et le sud. Voilà. Et donc, cette philosophie-là de maintenir l'équilibre cosmique, de maintenir l'équilibre entre le nord et le sud, et je dirais même l'est-ouest, on en a bien besoin aujourd'hui. C'est ça le principe du Sematawi, ça veut dire l'union des deux terres. D'accord ? Et la symbolique qui nous ramène au yoga est très puissante, puisque le symbole Sematawi, c'est un symbole où vous avez la trachée et les poumons. Et ce qui passe par la trachée et les poumons, c'est l'air. Donc le symbole, c'est le trachée et poumon. Et vous avez le lotus et le papyrus qui se croisent au niveau du centre énergétique du cœur.
Ça se trouve où, le centre énergétique?
Le centre énergétique. Le centre énergétique. Ben, je pense que le centre énergétique, c'est le cœur chez les anciens Égyptiens. C'était le siège de la conscience. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais après... ça peut être débattu. Voilà. Mais moi, ce qui est très intéressant, c'est de voir le lien qu'il y a avec cette ancienne civilisation. Parce que bon, je pratique ce Sumotawi Yoga qui a été retrouvé, donc mis au goût du jour par Maître Yogi Babacar Khan. Moi, depuis, je développe des choses de mon côté parce que je fais aussi de la musique.
Ah.
Voilà, je fais de la musique, je
chante. D'où ta présence à Frikajar pour ce festival.
Peut-être aussi. Bon, c'était. Voilà. Et ben, on aura l'occasion d'en parler. J'ai vraiment une proposition de faire un mixte entre la musique et le yoga. Je le fais déjà actuellement. Et à mon avis, ça peut intéresser beaucoup de gens. C'est très intéressant. Voilà. Donc, pour revenir sur ce principe d'union, d'harmonie, et c'est aussi union et harmonie à l'intérieur de soi. N'est-ce pas? Parce que les souverains d'ancienne Égypte aussi travaillaient aussi sur eux-mêmes. D'ailleurs, tous les 30 ans, il y avait une fête qui s'appelait le Hepzed, qui leur permettait de se revivifier, de montrer qu'ils étaient capables encore de gouverner. Voilà. Bon, on ne va pas revenir sur la politique actuelle, parce que ce sont des sujets clivants, mais vraiment, le rôle d'un souverain qui aime son peuple, c'est de maintenir l'harmonie dans le royaume. D'accord ? On n'exclut personne. Bien entendu, vous savez très bien qu'aucune civilisation au monde, et c'est pour ça qu'il est très important de relire les travaux de Cheikh Anta Diop, il est très important que les Africains se reconnectent à leur passé, en tout cas au niveau historique. Alors, il s'agit, voilà, les gens ont leurs croyances religieuses, c'est très bien, mais c'est fondamental puisqu'on est vraiment actuellement dans un très grand danger où on essaie d'exclure les uns les autres, les gens se battent. Moi, ce que je peux te dire, le message que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que l'Afrique, et pas seulement l'Afrique, on est sur une terre d'abondance. Voilà, ça c'est un peu le message politique que je vais amener. On est sur une terre d'abondance. Pour qu'il y ait de la misère sur terre, il faut un système politique.
Entièrement d'accord.
Pour qu'il y ait de la misère, il ne faut pas oublier ça. Pour qu'il y ait de la misère sur terre, il faut un système politique. Système politique, un paradigme qui n'est pas favorable à l'humanité, malheureusement, et qui maintient des masses entières dans l'ignorance, alors que tout est à portée de main. Tout est à portée de main. Et je vais paraphraser un de nos grands, je crois que c'était Amadou Ampateba, hein, qui a dit que une bibliothèque, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Et bien moi, je vais vous dire une chose aux Africains et à tout le monde. Chaque jeune Africain qui meurt actuellement prématurément, c'est notre avenir qui brûle. Voilà. Chaque jeune qui meurt. L'Afrique est sous-peuplée. L'Afrique est sous-peuplée. On a besoin de chaque jeune sur le continent. Chaque jeune. Il y a tellement de choses à faire. Il suffit d'avoir un minimum d'imagination et de lancer de grands travaux. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour ça, nécessairement. Il y a besoin surtout de la volonté. Et donc, la tradition et la philosophie des anciens Égyptiens nous rappellent, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup d'argent pour faire les pyramides, pour faire les grands travaux, les grands canaux qu'ils ont faits. Ils ont eu besoin seulement d'une organisation et de remettre l'être humain au centre. Et c'est ce que le Soumataoui prône et fait. C'est la philosophie de l'équilibre, de l'harmonie et du partage. Et bien entendu, puisque c'est énormément d'actualité, à l'époque, nous n'avons même pas besoin de féminisme, puisque la femme était au centre. La femme même pouvait régner. On a eu les Candace, on a les Agodiers aussi, voyez-vous, etc. Donc,
Cite les pays où il y a eu ces femmes qui ont régné.
Alors, il y a eu les Candace, donc c'est en Libye aussi, oui. Les Candace. Les Agodiers, donc ça c'est au Bénin, mais je crois qu'il y a eu d'autres.
Il y a eu le Dahomey au Bénin, oui, c'est ça. Il y a eu au Congo, oui. Il y a eu Zita,
oui.
Au Congo.
Oui, et bon, je, comme je ne suis
et
pas...
La, là, et la reine de Saba.
Bien sûr.
Et Cléopâtre.
Voilà, bon, justement. Mais bon, il y a Hatshepsut, Hatshepsut qui est la plus connue en Égypte, mais il y a eu d'autres. Non, et puis simplement, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, la divinité passe par la femme. Et on ne peut pas être un bon souverain si on n'a pas le tété, le sein et le sein. Voilà, c'était ça pour les anciens Égyptiens. Voilà, en tout cas, je salue tous les auditeurs de Radio Théolis. Et puis, quand je parle comme ça, je ne parle pas seulement en mon nom propre. Hein. Je suis le fruit aussi de toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont enseigné. Voilà, j'ai rencontré des coachs. Bon, je ne vais pas citer de noms parce que je vais oublier des personnes, je vais faire des jaloux. Je suis aussi dans...
Mais tu peux en citer quand même quelques-uns, quand même.
Voilà. Mais vibratoirement, énergétiquement, je suis en lien avec eux. Et aussi, je suis aussi des cours, donc avec... je continue à voir Maître Guy Babacar Khan. Je continue à suivre des cours de Medouneter. Alors, je ne suis pas très assidu tout le temps. Mais avec une association, bon, on peut faire sa publicité, l'association Kepera, voilà, qui est animée aussi en coulisses par le le fils aîné de Tcharanta Diop, Chambake Diop, avec un excellent professeur, Yoporeka Somé, et d'autres encore, voilà, qui animent cette association. Et puis, bon, c'est vrai que je suis plusieurs groupes, et je crois que ce qu'il faut qu'on se dise, dans cette idée de Sumatawi, d'union, d'équilibre, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec certaines personnes qui font certaines choses, mieux vaut le leur dire directement que de le balancer sur les réseaux sociaux et de créer la discorde. Parce que les plus grandes adversités africaines est là, elle est en action, c'est un système. Et ce système, il est même à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il faut commencer par une petite introspection. Et vous voyez, vous m'interviewez, je ne me permettrai jamais de critiquer qui que ce soit, même si je ne suis pas d'accord avec l'action de certains. Je préfère encenser et sublimer ce qu'ils font, parce qu'il n'existe personne qui ne fait que du mal. Hein. Les gens font ce qu'ils ont à faire. Et il y en a qui sont plus à l'aise avec la parole, qui vont être influenceurs, lanceurs d'alerte, et chacun apporte sa part.
Hold my hand. You're beautiful. Tell me your secrets. Dance with me. Let's go. Stop. Just to breathe. Dance with me. Let's go.
Les enquêtes d'Anna sur le site, hein, le camping Le Terriol à Cajar pendant le festival d'Africajar. Nous continuons l'entretien avec Makandiola Jacques Vera. Le Sumatawi, l'union des deux terres, le Mahat des anciens égyptiens. Makandiola nous éclaircit. Le Sumatawi, le Sumatafi, une pratique yoga des anciens égyptiens qui prônent l'être humain au centre, a permis à l'Afrique très tôt de nommer des femmes reines de royaume. L'Afrique est une terre d'abondance, dit-il.
Et dans cette philosophie du Sumatawi, ce qu'il faut dire aussi, il n'existe personne qui ne connaît rien. Tous les êtres humains ont quelque chose à apporter à la société. Personne ne peut être exclu dans notre système. Personne. C'est clair. D'ailleurs, il y a un texte comme ça d'un savant et sage d'Égypte ancienne, Ptahotep, qui disait que les paroles les plus sages et les belles actions se trouvent aussi chez les servantes qui triment avec les meules. D'accord ?
Magnifique.
Voilà, ça c'est très important de le dire. Bon, on a un peu la maladie de la diplomite aussi. Je crois que c'est beaucoup en Afrique francophone. Mais les gens qui ont des savoirs fondamentaux pour la vie, eh ben, ces personnes-là travaillent dans les champs, ces personnes-là enseignent, ces personnes-là sont... On a beaucoup de savants qui sont inconnus, parce que quand vous êtes dans un système qui est très répressif, les gens se cachent, ils préfèrent ne rien dire, voyez-vous, donc il faut aller les chercher. Bon, moi-même vous m'interviewez là, mais j'ai tendance à beaucoup parler quand on m'interviewe, mais sinon... J'aurais plutôt tendance aujourd'hui, je ne suis pas vieux, mais je prends un peu de l'âge, à me taire. Parce que, voilà, ce monde-là est lancé sur une course. On verra ce que ça va devenir. Mais actuellement, on est plutôt inquiet, bien entendu. Ce n'est pas la première fois que l'histoire de l'humanité se retrouve à des moments critiques comme ça. Mais je pense que toutes les personnes de bonne volonté, tous les gens qui aiment l'humain, n'est-ce pas, qui aiment leur prochain, doivent être très vigilants pour que ce qu'on appelle l'amour, mais l'amour en français, je vais médouiser le mot amour. Médouiser, ça veut dire je vais le transformer vibratoirement, énergétiquement, c'est pas de la linguistique, hein, en langue pharaonique. C'est Amaourou. Amon est grand, le caché est grand. Le caché, c'est le créateur, il est grand. Voilà, les gens disent Dieu est grand. Amaourou, Amon-Our, les anciens égyptiens avaient cette notion-là. Donc Amonrour, Amaourou donne amour. Voilà. Et donc nous devons rester dans cette vibration, dans cette énergie-là, parce qu'il s'agit d'avoir une âme la plus pure possible en quittant ce monde-là, cette vie-là. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, Anna, je suis très reconnaissant et très content de t'avoir rencontré.
Je te remercie. Tu peux nous parler de tes projets futurs que tu n'as pas encore dévoilés?
Alors, merci Anna pour cette question qui est magnifique et elle ne tombe pas par hasard parce que je suis dans une période, nouvelle période de transition vers des projets où justement j'aimerais pouvoir partager cette pratique-là avec beaucoup de personnes. Par exemple, lors d'un festival comme ça, c'est un appel, Africaja et d'autres. Je peux proposer des séances de Soumataoui à des dizaines, à des centaines de personnes. Et le schéma proposé, à mon avis, va beaucoup plaire, parce que c'est un schéma avec de la musique, parce que je fais un peu de musique, je chante aussi, et du Soumataoui, dit yoga des pharaons. Voilà. Donc on aura des spectateurs qu'on pourra guider par moment pour faire quelques mouvements, quelques postures de yoga qui ne sont pas difficiles. Hein. Il ne s'agit pas de faire des choses compliquées. On n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. D'ailleurs, voilà, il y en a qui ont des problèmes de dos, il y en a qui ont des problèmes d'hernie.
Je te coupe pas, c'est mon cas. Moi, je pense que je n'arriverai pas à suivre.
Voilà.
Hein.
Voilà. Et j'ai des exemples de personnes comme toi et qui ont suivi. Et qui ont eu des améliorations. Voilà, qui ont suivi parce qu'il y a une façon de faire. Qui ont eu des améliorations. Voilà. Combiné avec une autre hygiène de vie parfois, et puis combiné avec l'intervention de thérapeutes compétents dans leur domaine. Mais moi, j'ai beaucoup d'exemples hein, de personnes qui sont venues comme ça et qui ensuite n'ont plus mal au dos. Heureusement. Oh, oui. Ouais, parce que
je m'inscris à ton cours.
Bon, il faut tester. Voilà, il faut tester pour voir, parce qu'on est très précautionneux. L'enseignement du maître Yogi Khan est un enseignement de très très grande qualité. En fait, il a été chiropracteur, il a travaillé avec des rhumatologues et il a développé une méthode très précautionneuse. Donc on a des personnes, moi j'ai eu des fois dans les cours de yoga des personnes qui ont 90 ans.
Incroyable.
Il y a de l'adolescence, alors on va dire, hein, de 17 à 97 ans, dans une même séance, tout le monde y trouvera son compte. Ceux qui sont souples ben, font des choses un peu plus loin que les autres, mais tout le monde pourra faire ensemble. Vraiment, notre pratique, elle rassemble. Elle rassemble, elle est transgénérationnelle. Il n'y a pas de niveau. C'est comme ça, la vie. Au quotidien, la vie telle que je pense pensée par la créatrice, créateur, parce qu'on dit toujours le créateur. Voilà, c'est une énergie féminine aussi, elle est androgyne en tout cas, créatrice, créateur. Voilà, donc nous on est dans le milieu, hein, on est au centre, c'est l'équilibre. Et cette énergie-là, elle favorise, n'est-ce pas, la complémentarité, la convivialité. Voilà. Je pourrais en parler des heures. Hein. Je me relis à ça.
Mais c'est très riche. Hein.
Ouais. Merci, oui. Ouais. Donc voilà, les projets, ce serait ça. Ben voilà, je lance un appel. Ça peut être pour une mairie, ça peut être pour une ville. Hein. Pareil, ça peut être Lomé, ça peut être Dakar, ça peut être Kigali, ça peut être Cotonou, par exemple. Là, pour Cotonou.
Ça peut être Radio Théolis, tout simplement.
Voilà, ça peut être Radio Théolis. Mais Radio Théolis, il faut que je sois en présentiel, soit physique. Pour que je puisse guider les personnes pour faire une séance de yoga. Voilà. On le fait en ligne, mais bon, ça a ses limites. Mais là, comme tu me posais la question sur mes prochains projets, ben, j'aimerais bien aller de capitale africaine en capitale africaine et de réunir des centaines de personnes pour faire des séances de Soumataoui. Et là, franchement, je sais que si on le fait une seule fois dans une seule ville, la première ville qui va le faire, après, ça va aller partout. Ça va aller partout. J'en suis totalement convaincu. Voilà. Donc peut-être au Bénin, peut-être, parce qu'on a un voyage du 6 au 17 janvier au Bénin. On compte amener un groupe. de France et des Antilles au Bénin. Comme on était au Sénégal donc au mois de mars de cette année. Et donc voilà, donc on organise aussi des voyages avec mon association, l'association Sumatawi Yoga. Voilà.
Voilà, pour ceux qui nous suivent, vous voyez, c'est un monument, c'est un livre. C'est un livre de Cher Anta Diop, tellement il développe des sujets qui sont pointus, importants, des racines qu'on ne doit pas ignorer. Mais je sais qu'en ce moment, Michel qui m'écoute se dit, oui, bon, c'est pour les enquêtes d'Anna, mais moi je le récupère pour mon émission Best Africa. Oui, Michel qui est le président de la fondation Théolis, dont le siège est à Paris. Et quelqu'un qui fait une émission qui s'appelle Best Africa, qui va sur justement des analyses pointues de notre continent dans le domaine politique, économique et psychologique aussi. Voilà. Donc Michel, si tu veux, il n'y a pas de problème, hein, tu récupères cette émission, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est pour toi. Voilà. Donc Vera, rappelle-moi ton prénom.
Makanjuala Jacques Vieira.
Jacques Vieira.
Makanjuala, qui est un prénom yoruba, qui veut dire...
Attends, je te passe le micro.
Oui, mon premier prénom, c'est Makanjuala Jacques Vieira. Alors, c'était pour compléter mon histoire. Pourquoi je m'appelle Jacques? C'est en hommage à un Français qui a pratiquement sauvé mon père pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a demandé à ses parents de prendre mon père chez eux parce qu'il était en errance pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les Français avaient récupéré leurs enfants. Mon père s'est retrouvé à l'internat tout seul. Et à un moment donné, je crois qu'il a dû errer même comme ça, complètement dans la nature, quoi. Voilà, donc en honneur de ce monsieur Jacques, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, Jacques Fontaine, je m'appelle Jacques. Et sinon, Makanjuala est mon premier prénom, qui est un prénom yoruba, Lupé, qui veut dire « ne te soucie pas de l'avenir
». Ne te soucie pas de ton avenir, mais apparemment tu te soucies de l'avenir du continent, hein, par rapport à ce que tu fais. Si nous revenions un petit peu à Africa Jar, donc ce festival qui est en train de se dérouler, tu as mis ta tente, tu es venu dans cette belle ville qui est Kajak, oui, justement pour suivre ce festival. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les séquences auxquelles tu as assisté, littérature, théâtre, peut-être aussi la musique, les concerts, les rencontres?
Oui, écoutez, j'ai été très agréablement surpris et impressionné effectivement par l'offre et la diversité proposée à ce festival. Déjà donc tous les stands avec tous ces produits qui sont proposés, c'était magnifique. J'ai vu qu'il y avait une programmation cinématographique, bon, je me suis intéressé à ça, qui était très intéressante. Alors j'ai pas pu aller au cinéma parce que vu le temps, la chaleur, il était difficile d'aller dans une salle obscure, m'asseoir. Donc j'étais attiré par le dehors. Voilà. J'ai croisé un écrivain malgache hier, très sympathique. Je l'ai pris pour quelqu'un que je connaissais, un ami d'enfance. Il m'a dit non, je suis écrivain malgache. Alors je ne me rappelle plus de son nom. Il va passer à 15h30 pour parler de ses ouvrages. Donc il y a de très belles rencontres qui se font. Bah, et puis la rencontre avec Anna, avec toi et avec Bey aussi, hein, voilà.
Cher, voilà, le percussionniste,
voilà, très très belle rencontre. Et puis ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'accueil des habitants de Kajar, vraiment très très touchant. On sent vraiment qu'il y a une communion entre les habitants, la convivialité, bonjour partout, comment allez-vous, etc. C'est vraiment un projet, c'est le projet d'une ville, n'est-ce pas, qui a décidé, d'une ville ou d'un village, qui a adhéré à ce projet-là, qui a maintenant 23 ans, qui rentre dans sa 24e année. Recréer un village provisoire pour permettre à encore plus de convivialité, pour que toutes les compétences, tous les domaines de la création, même des inventeurs, parce qu'on a beaucoup de jeunes inventeurs qui font des choses extraordinaires, que ces inventeurs puissent tenir des stands, nous montrer ce qu'ils font. Voilà. Bon, moi, je déborde d'imagination, hein, et de projet. C'est vrai. Voilà. Et pour revenir à Kajar, Vraiment, il faut dire aussi que la France est un beau pays, hein, comme de nombreux autres pays. La terre est très belle, en fait. Hein. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de vilains pays. Hein. Voilà, voilà. Mais comme on est en France actuellement et à Cajar, la région est très belle, vraiment très belle. Et je vous encourage à élargir un peu notre zone de confort, à sortir de notre zone de confort pour certains qui vivent peut-être un peu trop en région parisienne, à l'occasion de festivals comme ça, de venir voir ce qui s'y passe. Hein. Je sais qu'on a beaucoup de créateurs et de créatrices en région parisienne que je côtoie, que je fréquente, qui font de très belles choses. Et peut-être que pour les éditions suivantes, on pourrait s'inscrire pour venir présenter leurs produits qui sont uniques. Il y a des gens qui font des choses que personne d'autre ne fait, qui sont des produits très originaux. Voilà, parce que ici à Cajar, ben, c'est un cadre très convivial pour recevoir les créateurs. Voilà, c'est ce que je... Et j'espère, ben, Anna, que tu me feras rencontrer le directeur du festival pour le saluer et le féliciter.
On va essayer d'arranger ça, mais celui qui est le mieux placé pour cela, c'est Maïcher Mbariaï, le percussionniste. D'accord. Il connaît Laurent.
D'accord, très très bien.
Je m'approchais, voilà, je prends en gros plan, ça m'intrigue, hein. Cette bague qui est un sigle égyptien, tu peux nous en parler ?
Oui, c'est la croix ancre. La croix ancre, c'est un symbole de vie en fait. Ancre, ça veut dire vie, c'est la vie. Et donc, les souverains d'Égypte l'utilisaient pour vivifier toutes sortes de choses. Eux-mêmes se vivifier, donc se renforcer, vivifier la nourriture. Et c'est un symbole, c'est le symbole, l'un des symboles égyptiens les plus connus. Hein. Voilà. Et on pense que de là aussi émane la croix chrétienne. Voilà. Bon, avec le Sacré-Cœur. Donc il y a une combinaison de la croix ancée et du Sacré-Cœur qui veut dire Néfer aussi. C'est un symbole égyptien, Néfer, qui a donné la croix chrétienne. Bon, là, on rentre dans un sujet qui est un peu plus sensible. Mais bon, puisque tu poses cette question-là, il ne faut jamais qu'on oublie que nous venons tous de la même source. Voilà. Et que les divisions ne sont que des choses apparentes qui sont provoqués par le système qu'on appelle le Seitan. Voilà. Les anciens Égyptiens appelaient ça Isefet, le désordre. J'ai tendance à dire que chaque fois que vous commencez à avoir un sentiment de supériorité ou un sentiment de haine vis-à-vis d'un groupe, c'est que quelque part votre esprit a été corrompu par le système. Il ne faut jamais oublier ça. Et les anciens Égyptiens savaient ça. Et je vais vous faire une petite... C'est quelque chose qui est connu, hein, ce que je vous dis là. Il y a plein de gens très compétents qui le savent. Les musulmans terminent leur prière en disant « Amin ». Les chrétiens terminent leur prière en disant « Amen ». Les juifs terminent leur prière en disant « Amen ». Et il y a un livre qui a été écrit par des prêtres, mais pas seulement. « Amin, Amen ». Ça vient de Imani, Amana, Amun, Amon. Ça veut dire le caché. C'est un mot qui traduit le caché en ancien égyptien. Tous les gens qui terminent leur prière invoquent ça. Ils ne savent pas.
Incroyable.
Voilà. Oui, oui, c'est ça. Moi, je vois. Voilà, c'est ça. Donc, les gens se bagarrent pour rien du tout. Pour rien du tout. Je pense que le divin, il est en nous. Il est pour tout le monde. Après, selon votre culture, vous vous reliez au divin comme vous voulez, selon votre culture. Mais il n'y a pas de quoi se bagarrer pour ça. Et moi, je veux saluer aussi le Sénégal, mon pays de naissance, parce que j'ai connu au Sénégal la fraternité, la sororité, vrai. N'est-ce pas ? Et justement, il faut faire très attention pour que la politique ne nous entraîne pas dans des extrêmes qui ne nous mèneront nulle part. Quand j'étais petit, on ne faisait même pas la différence pour savoir qui était musulman, qui était chrétien. chacun respectait ce qu'il avait à respecter. Pour les fêtes musulmanes, à la Tabaski, on allait chez nos amis musulmans. Pour Noël, etc., nos amis musulmans venaient chez nous. Des fois même, on allait à la mosquée le vendredi et le dimanche, on allait à la messe. C'est pour vous dire. Voilà.
Et c'est Noël, Tabaski.
On dit que la vérité vient de la bouche des enfants. Bon, nous, on était un peu. Voilà, on était innocents. Et c'était beau comme ça. Voilà.
Là, je sens que les auditeurs sont accrochés depuis tout à l'heure. Ben oui, il est très, très, très riche. Et là, il y a aussi bien des jeunes, des personnes mûres, des femmes, des vieux, des vieilles, des enfants, des illettrés hein, qui nous écoutent. Je pense que tu as peut-être un message sur ces auditeurs et auditrices de Radio Théolis et de nos réseaux sociaux.
Oui, oui. Oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment que c'est à mon tour de partager un peu hein, le peu que j'ai appris et que j'ai découvert. Parce qu'en fait, ce que je partage, c'est ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune et que je ne savais pas. Nous sommes à nouveau sur une planète d'abondance. Il suffit de trouver, vous, chacune, chacun, ce pourquoi il a le plus de facilité, ou, entre guillemets, la mission de vie, que ce soit lettré, illettré, tout ça, ce sont que des mots, d'accord? Tout le monde peut faire quelque chose, et comme nous sommes sur Radio Théolis, et qui a Lomé au Togo, et qui rayonne dans le monde entier, mais on va parler plus précisément de l'Afrique, il y a tant de choses à faire, et tant de choses possibles. Il suffit d'avoir l'information. Et je répète, et j'insisterai, il n'y a personne qui ne connaît rien. Tout le monde sait faire quelque chose. Et quelle que soit l'activité humaine, si vous la faites bien, vous pouvez en vivre décemment. Quelle que soit. Faire de la poterie, vous pouvez faire des poteries magnifiques, n'est-ce pas, qui seront vendues partout. L'agriculture, n'en parlons pas. Tous les jours, je découvre de nouvelles plantes, inédites, que les gens n'exploitent pas, avec des possibilités aussi bien nutritives que thérapeutiques. Tous les jours, on en découvre. On est sur une planète mais incroyable. Pensez au manguier, puisque le manguier, il y en a dans toute l'Afrique. Une graine, combien de millions ou de centaines de millions de mangues elle va donner au cours de sa vie? Vous croyez que la créatrice, créateur qui a fait ce monde-là, veut que les gens souffrent? Non, non, non. La misère est un délit contre le divin. Et ça, tous les hommes politiques, tous les gens doivent le savoir. La misère est un délit. Il n'y a pas de problème de sous-développement. Ça, c'est des mots encore. Ça n'existe pas, ça. Ce sont des créations. D'ailleurs, moi, j'en parle mal. Il n'y a même pas besoin d'émerger. On émerge pour aller où? On émerge pour être submergé dans autre chose, en fait. Voilà. L'Afrique n'est pas seulement riche de son sous-sol. L'Afrique est riche de ses habitants, de ses cultures. Là, j'ai reçu encore une vidéo où le gars fait du bioéthanol, de l'essence, avec du manioc, à base de manioc. Il n'y a pas de problème, de pauvreté, il n'y a pas de problème de raréfaction des moyens
de subsistance
ou d'énergie. Tout pousse, on peut extraire même, on a des fleuves, on a des sources, mais on peut même extraire l'eau de l'air. Donc, moi, le message que j'ai donné, il faut retourner aux fondamentaux. Alors, c'est bien, on a ce grand entrepreneur, bon, on peut saluer, monsieur Dangote, qui fait du ciment. Mais on n'a même pas besoin de ciment pour faire des maisons. Je ne suis pas en train de dire de ne pas acheter son ciment. On n'a même pas besoin de ça. On peut faire des maisons extraordinaires, avec la terre, avec du bambou. D'ailleurs, c'est un de mes projets, ça. Si j'ai une maison à construire, j'utiliserai un minimum de ciment. Le bambou, il faut voir ce que les Asiatiques font avec le bambou. Le bambou pousse comme une mauvaise herbe. Jusqu'à 15 cm par jour. J'ai visité une bambouserie il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai pris les références et tout. Il y a des bambous qui poussent 1 mètre par jour.
Oui.
15, seulement à 15 cm par jour. Ils vous disent qu'au bout de... Je crois que c'est au bout de 8 semaines, un truc comme ça, le bambou a atteint une taille exploitable. tout est à faire. Et on a plein de pionniers, effectivement, qui ne sont pas très connus, qui ont fait des choses extraordinaires sur le continent. Donc il faut se brancher là-dessus et vraiment instruire nos enfants, nos jeunes, pour qu'ils cessent de prendre la pirogue pour partir en Europe. Alors que beaucoup d'Africains qui sont en Europe ne cherchent qu'une seule chose, c'est de retourner sur le continent. Voilà. Oubliez de prendre la pirogue pour partir. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est que c'est notre responsabilité aussi, ceux de la diaspora, etc. Alors effectivement, on est mal placé parce qu'on dit oui, vous êtes déjà en Europe, voilà, vous êtes bien, et vous voulez pas qu'on vienne. C'est ce qu'on nous reproche. Voilà. Bon, mais en tout cas, il y en a qui comprennent. Et je peux vous assurer que la plupart des gens de ma génération, en tout cas qui ont travaillé en Afrique, qui sont posés, sont aujourd'hui matériellement mieux lotis que moi-même.
C'est tout à fait exact.
Sont mieux lotis que moi-même matériellement. Ils ont construit des maisons, ils ont fait des choses, ce que j'ai pas pu faire. Bon, moi j'ai un parcours un peu atypique, mais quand même. Vous voulez avoir une maison en Europe, des fois vous vous endettez pour 25 ans. Alors que brique par brique, il y en a qui ont construit une maison, qui ont loué une chambre, qui sont débrouillés comme ça. Voilà. Voilà ce que je peux dire à ces personnes. Et en tout cas, c'est un message que je veux porter, et si je peux même dans les universités, tout est possible. Dès que quelqu'un vous dit oui, mais ça, c'est... Non, faut pas essayer de faire. Faites, si vous avez une idée, menez-la jusqu'au bout. Et restez discret. Parce qu'il y a toujours des gens pour vous décourager. Ah non, c'est pas possible. Non, non. Vous connaissez cette phrase-là. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Voilà. Voilà, je crois que c'est vraiment un mot de la fin qui est vraiment très beau et qui parle, qui va en profondeur. Voilà, donc nous te remercions. Hein. Je rappelle que nous sommes dans les allées du camping qui se trouve en plein, pas loin de la piscine. Hein. Si vous cherchez, c'est pas très loin de la piscine à Cajarc. Nous sommes accueillis par Ludovic, qui est le maître de ces lieux. Ça nous a permis en tout cas d'être complètement à l'aise, de pouvoir faire cette interview avec Vera, parce que j'ai du mal avec ton prénom, sache. Oui. Donc, rappelle-moi ton prénom.
Makandjouala.
Makandjouala.
Makandjouala Jacques.
Makandjouala Jacques Vera. Voilà. Voilà. Donc, qui est riche, hein, qui est vraiment riche, c'est du potentiel énorme. J'espère que vous avez aimé en tout cas cette émission. Et ce direct, amis auditeurs, auditrices, pour les enquêtes d'Anna, depuis la ville de Cajarc, pendant le festival d'Africajarc qui est en train d'avoir lieu. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure.
Hold my hand. You're beautiful. Tell me your secrets. Dance with me. Let's go. Stop. Just breathe. Be with me. Dance with me.